Alors bonsoir à toutes et tous et merci aux valeureux organisateurs Anne et Nathanaël ce soir d'avoir courageusement proposé une Saint-Valentin en forme de Saint-Donatien. La distribution de cette soirée est déjà un tout petit peu programmatique puisque vous voyez nous sommes trois femmes à vouloir vous parler de Sade en cette date symbolique. L'idée était justement de proposer peut-être une autre approche de cette œuvre de Sade qu'on connaît mal, à la fois lui et son œuvre, qu'on ne connaît que de manière négative ou de manière scandaleuse. Il faut donc peut-être entendre d'autres voix pour peut-être entrer, vraiment rencontrer cette figure de Sade. Du coup, j'ai choisi comme phrase, titre, si vous voulez, pour la soirée, un extrait de la correspondance de Sade. « Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. » Phrase qui se trouve dans sa correspondance et plus précisément dans une lettre qu'il écrit à son épouse, René Pélagie de Montreuil, en novembre 1783. À cette date, Sade est déjà incarcéré depuis exactement 6 ans à la prison de Vincennes. Pourquoi j'ai choisi cette phrase ? Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. Parce que pour moi, elle mettait l'accent sur le malentendu spectaculaire qui caractérise la postérité de Sade. C'est-à-dire que lui consacrer une soirée voix, dans le cadre de ce festival, me paraît d'autant plus intéressant que c'est justement un auteur que l'on n'a pas voulu entendre de son vivant, d'abord, au sens propre, puisque vous le savez, ou je vous le rappelle, Sade est mort en 1814, à l'âge de 74 ans, et sur ces 74 années, il en a passé 27 en prison. Pour le dire de manière plus parlante pour nous, Sade a 37 ans lorsqu'il est arrêté. Et si on fait exception d'une dizaine d'années de liberté qu'il retrouve sous la Révolution, à partir de 90, il passe sinon la quasi-totalité de sa vie d'adulte, de 40 à 70 ans, en prison. En prison au donjon de Vincennes, à partir de 1777. En prison ensuite à la Bastille, dont il est extrait une semaine avant que la Bastille ne tombe, le 14 juillet, Sade, le 2 juillet, est sorti de la Bastille parce qu'il y fait trop de bruit. Et donc il n'est pas là le jour où la célèbre prison d'Ancien Régime tombe. Il retrouve alors la liberté pendant 10 ans, et puis en 1800, pour une toute autre raison, mais j'y reviendrai tout à l'heure, il est à nouveau arrêté, mais cette fois-ci, enfermé dans l'hôpital psychiatrique de Charenton, qui est à l'époque une institution un peu hybride, qui accueille à la fois des fous, comme on les appelle à l'époque, et puis quelques personnes qui sont au contraire victimes de lettres de cachet ou à l'époque de décrets impériaux. Sade a donc passé quand même la moitié de sa vie réduit au silence. Donc au sens propre, il me paraît vraiment important ce soir d'essayer de lui redonner voix. D'autant que toute sa vie, il a essayé aussi de se réhabiliter. Il a essayé de se défendre, arguant toujours la même stratégie, les mêmes arguments. « Je suis un libertin, dit-il, mais je ne suis pas un monstre. » Sade a effectivement été accusé et jugé à 2 reprises, à son époque, c'est la raison pour laquelle il est emprisonné, accusé d'avoir commis des actes monstrueux. En réalité, je vous passe les détails, tout sera dans la biographie que je suis en train de faire, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est un autre sujet. En réalité, on s'aperçoit très rapidement qu'il n'est coupable que de faits de libertinage, c'est-à-dire de fantasmes sexuels, rien qui relève de la justice. Autant de sujets qui relèvent uniquement des mœurs et du privé. Sade a donc toujours dit « je suis un libertin, je le revendique, mais je ne suis pas un monstre ». Et cette voix, personne n'a voulu l'entendre à son époque. Pourquoi ? Parce qu'admettre la vérité de ce que Sade nous disait, c'est-à-dire « j'ai des fantasmes sexuels comme tout le monde », supposait à l'époque déjà que chacun des juges qui l'ont condamné ou chacun des membres de sa famille, puisque c'est sa belle-mère aussi qui l'a ensuite fait enfermer, que chacun de ces personnages admette que peut-être, consciemment ou non, ils avaient tous les mêmes fantasmes. Il a donc été beaucoup plus pratique sous l'Ancien Régime, et d'ailleurs jusqu'au XXe siècle, de faire de ça d'une espèce d'exception monstrueuse, un pharmakos, comme on disait dans le monde antique, un bouc émissaire, qui allait porter à lui seul toute la part de nos fantasmes les plus sombres. La psychiatrie autrichienne a joué dans cette relégation monstrueuse un rôle majeur, puisque vous le savez, à la fin du XIXe siècle, les premiers psychiatres autrichiens qui se sont intéressés à ce qu'ils appellent les perversions sexuelles ont forgé un concept qu'ils ont appelé sadisme, par antonomase, hein, à partir du nom propre de ce malheureux marquis. En réalité, le sadisme, vous le savez, existait avant et existe bien après. Il avait un autre terme dans la psychopathologie sexuelle, on l'appelait l'algolanie, un mot qu'on emploie moins aujourd'hui, mais qu'on aurait dû employer pour éviter de l'associer systématiquement à Sade. L'algolanie, c'est l'association de la jouissance et de la souffrance. Sade dit, nous l'avons tous. Mais on a fait de lui, plutôt que d'admettre cette part d'ombre que nous avons en partage, on a fait de lui, du coup, un monstre sans jamais vouloir avoir voulu l'entendre, ni l'écouter, ni entendre sa voix. En plus, son œuvre entière est traversée par l'angoisse de ne pas être entendu. Parmi tous les textes les plus sombres et les plus violents de Sade, la plupart enchaînent les supplices, les scènes de torture. Et pour tout lecteur de Sade, il y a une certaine habitude à voir finalement les mêmes scènes se répéter. Il y a en revanche un épisode qui toujours suscite le plus grand effroi, aussi bien pour les protagonistes de l'histoire que pour nous lecteurs. C'est la scène où la victime est prise par des scélérats, des libertins, est enfermée dans un château. Jusqu'ici, on se dit, on connaît l'histoire. Et là, la peur surgit quand justement le libertin dit à la victime « Vous aurez beau crier, vous êtes si loin, les murs sont si épais que personne jamais n'entendra votre voix. » Je prends un exemple de cet effroi du malentendu qui est si glaçant chez Sade. C'est dans la philosophie dans le boudoir, son dialogue philosophique de 1795 qui raconte, on en parlera tout à l'heure, l'éducation d'une jeune fille, et puis l'idée vient au libertin de supplicier la mère de la jeune fille, Madame de Mistival. On la fait donc rentrer dans le boudoir, où se trouve déjà sa fille et des scélérats, et Madame de Mistival s'étonne de ce dispositif, s'inquiète aussi, et Dolmansé, le chef du boudoir, lui dit « Quant à tes cris, je t'en préviens, il serait inutile, on égorgerait un bœuf dans ce cabinet, que ces beuglements ne seraient pas entendus. » Et c'est là que la peur monte hein, chez Sade, la peur que les murs soient si épais que la voix ne les transperce pas. Donc lui redonner voix est, de ce point de vue-là, très important. J'ajoute aussi, parce que là on est sur, je vous parle de la voix au sens propre, hein, rendre à Sade sa voix, au sens figuré, l'œuvre de Sade a aussi été abondamment commentée, notamment, bien sûr, au XXe siècle, et elle a suscité les lectures les plus contradictoires. Si bien qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Sade, mais finalement, personne n'arrive à se forger une idée très claire non plus de son œuvre. Chacun a un peu son Sade, et le champ critique sur cet auteur est un champ totalement contradictoire. Vous avez d'un côté le Sade qui aurait été le grand libérateur de l'humanité, qui coexiste avec le Sade, au contraire, théoricien de l'univers concentrationnaire, voire du fascisme. Toutes les voix critiques se sont heurtées sur ce corpus, si bien que cette masse critique contradictoire a fini par estomper l'œuvre de Sade. Premier problème. On ne la lit plus guère aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, la plupart des cursus de lettres hein, ne comptent pas Sade parmi les auteurs à étudier. Dans nos rêves à tous, un jour, il est au programme de l'agrégation, mais là, je crois que je vais mourir sans jamais l'avoir vu. Autre problème de cette masse critique contradictoire, on associe toujours à Sade certains de ses textes, notamment les plus sombres, les plus cruels, je pense aux 120 journées de Sodome, qui ont fait sa renommée, mais la renommée de ses textes a complètement occulté toute la diversité de son corpus. Sade est aussi, on y reviendra tout à l'heure, un auteur de théâtre, un auteur de contes, un philosophe du genre humain, quelqu'un qui s'est essayé à toutes les palettes, à tous les pinceaux plutôt, pardon, de sa palette, pour reprendre une métaphore qu'il utilise très souvent. Et c'est donc la diversité de ce corpus qu'il faut aussi retrouver sous la légende noire qu'on a forgée du Marquis. Enfin, pourquoi entendre la voix de Sade ce soir ? Parce que son univers est un univers entièrement vocal. Sade a toujours accordé la plus grande place à la parole dans son œuvre. Pour lui, on peut parler d'un paysage sonore, hein, c'est une notion critique très pertinente. Pour lui, l'œuvre est auditive, l'imaginaire est auditif. Alors cela tient bien sûr aux circonstances particulières de sa vie, puisque 80% de son œuvre a été écrite en prison. Il lui est donc très important, lorsqu'il est lui-même enseveli, comme il le dit, c'est un adjectif qu'il utilise, sous des murailles si épaisses qu'on n'entend plus sa voix et qu'il a lui-même non plus plus personne à qui parler, on comprend bien pourquoi il est si important pour lui de privilégier dans sa littérature les genres adressés. Tous les genres littéraires qui, d'une manière ou d'une autre, restituent la figure d'un autre, fictif ou pas. C'est ainsi que 80% de l'œuvre de Sade est dialoguée. C'est ainsi aussi que la plupart de ses textes commencent par des préfaces adressées au lecteur. Il y a toujours une apostrophe chez Sade, un autre qui est sollicité. Mais au-delà de cette structure énonciative particulière, hein, qui vraiment est sa signature, à mon avis, une œuvre orale, il y a dans son œuvre toujours une importance très grande accordée à la voix. Lorsque les personnages sont décrits, aussi bien les hommes que les femmes, on va décrire bien sûr les parties de leur corps, mais finalement elles sont assez standards, et au bout d'un moment les corps se ressemblent tous dans l'œuvre de Sade. En revanche, les voix, elles, diffèrent et permettent vraiment de singulariser des personnalités. Par exemple, Dolmansé, le libertin de la philosophie dans le boudoir dont je vous ai parlé, est présenté tout de suite comme ayant une jolie voix. Je cite le texte. Quant à Justine, la grande héroïne sadienne, Justine ou les malheurs de la vertu, le texte nous dit qu'elle avait un organe touchant. Une formule intéressante. La voix est donc dotée d'un charme particulier. La voix est aussi, chez Sade, ce qui permet la narration. La littérature idéale pour Sade est celle qui est dite, non celle qui est lue de manière silencieuse. Le modèle qui structure toute son œuvre est celui du Décaméron de Boccace. Vous connaissez l'histoire, hein, la peste s'abat sur la ville de Florence au XIVe siècle et 10 personnages se rassemblent dans une villa isolée sur les hauteurs de la ville où l'air est un peu plus pur et, pour passer le temps, se racontent des histoires, au total se racontent 100 histoires. C'est le Décaméron de Boccace. Ce modèle informe Sade en profondeur, parce qu'il est persuadé de descendre de Pétrarque, et donc que la littérature italienne, enfin il n'est pas persuadé, c'est une réalité, enfin de la lore de Pétrarque, et donc la littérature italienne est un peu l'archéologie de sa mémoire littéraire, et surtout, lorsqu'il va lui-même envisager son œuvre, il va s'intituler ou s'autoproclamer le Boccace français. Et donc on voit Sade rêver lui aussi de ce dispositif qui est un peu le nôtre ce soir, c'est-à-dire d'avoir un auditoire physiquement présent, idéalement, ou alors fictif quand on ne peut pas faire autrement, mais un auditoire physiquement présent à qui on va raconter l'histoire. Et on voit très bien ce modèle d'une littérature orale, de ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs des contes, hein, le mot revient régulièrement, on voit très bien ce modèle dans son texte le plus tristement célèbre, « Les 120 journées de Sodome ». Déjà le titre « Les 120 journées » font explicitement référence au Décaméron, puisque vous avez aussi le modèle de 120 journées qui vont être occupées par des récits faits par des femmes, ce que Sade appelle quatre historiennes, c'est le mot qu'il emploie, qui vont donc constituer la matière narrative de ces 120 journées. Chaque jour, une historienne va raconter une nouvelle histoire, une histoire des passions, les plus sages jusqu'aux plus terribles. C'est ça la structure des 120 journées. Et donc, l'essentiel du texte de Sade a lieu dans une pièce très particulière d'un château, le château de Siling, qui se trouve, on en reparlera tout à l'heure, dans la forêt noire, près de Bâle. Cette pièce, Sade l'appelle le salon des narrations. Et c'est ça pour lui le modèle de l'œuvre, avoir un salon des narrations avec des historiennes ou des narratrices, le plus souvent ce sont des femmes, qui viennent raconter. Ce qui suppose pour Sade de savoir raconter. Il y a des gens, à peine ont-ils commencé un récit, on s'ennuie déjà. Sade dit, il faut savoir capter l'auditoire. Ça veut dire qu'il faut rythmer, varier, de temps en temps, comme il le dit, gazer, c'est-à-dire mettre un voile, une gaze, sur les scènes les plus crues. De temps en temps, à l'inverse, pour intéresser l'auditoire, il faut lever le voile et rentrer d'un coup dans des détails crus. Mais pas toujours quand on s'y attend. Il faut surprendre. Et cette exigence est si importante pour lui que souvent dans ses œuvres, vous avez une mise en abîme de cet art du récit. Par exemple, un personnage va raconter son histoire à un auditoire, il va interrompre son histoire et l'auditoire va lui dire « Ah ben moi j'aime bien comment vous racontez ». Ou un autre personnage de l'auditoire va dire « Moi je trouve que vous êtes trop lente ou trop rapide » ou alors « Vous nous avez un peu trop caché les détails ». Et donc, la narratrice va toujours avoir à cœur de répondre aux exigences du public pour poivrer davantage, pour utiliser un autre mot de Sade, pimenter, nous on dit aujourd'hui, son récit, c'est-à-dire lui donner un peu de piment et d'exotique. Donc, l'oralité, la voix, j'arrive au bout de mon préambule, est prédominant chez Sade. D'ailleurs, dans les 120 journées, ce fameux texte du Boccace français, le narrateur écrit au début du texte « Il est reçu, dit-il, parmi les véritables libertins, que les sensations communiquées par l'organe de l'ouïe sont celles qui flattent davantage et dont les impressions sont les plus vives. » Voilà. Parler, donc, chez Sade, plutôt qu'écrire. Alors, pourquoi ? Dernière question. Parce que, pour lui, la voix humaine, livre à la voix, livre de nous une vérité sans masque. On peut feindre avec un visage, on peut travestir un corps. En revanche, on peut beaucoup plus difficilement masquer la voix. On a tous fait cette expérience. Quand vous n'allez vraiment pas bien, vous ne pouvez pas téléphoner. Ceux qui vous connaissent savent très bien que quelque chose ne va pas. La voix dit quelque chose de nous que nous ne pouvons pas cacher. Elle est donc une vérité brute, la vraie vérité de nous, le personnage sans masque, le vrai nous. Et donc, pour aller retrouver quelqu'un, retrouver un auteur, retrouver un personnage, il faut, pour Sade, aller entendre sa voix. J'ajoute qu'écouter la voix de quelqu'un, pour lui, c'est aussi acquérir une connaissance de l'homme. Il écrit dans son Idée sur les romans, sa préface théorique de 1800, « Quelqu'un qui veut connaître les hommes, dit-il, il faut qu'il parle peu quand il est avec eux. On n'apprend rien quand on parle, on ne s'instruit qu'en écoutant. » Alors, il est plus que temps d'écouter la voix de Sade. Première chose peut-être à voir, et à premier malentendu, à lever sur ce malheureux Donatien et sa légende noire, Sade n'a jamais voulu la notoriété qui est la sienne aujourd'hui. Au contraire, ça a été plutôt un homme de l'ombre, à tous les sens du terme, parce qu'il est longtemps resté à l'ombre, si j'ose dire, mais un homme qui, a, en tout cas, aurait voulu une vie beaucoup plus discrète que celle qu'il a eue, ce qu'on entend de manière assez troublante dans l'étrange testament qu'il écrit en 1806.